Bonjour à tous, je suis Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir un carnet de voyage un petit peu particulier. Nous allons à Marioupol, ville symbole du martyr ukrainien, rasée par les Russes et aujourd'hui en passe de devenir une station balnéaire à la mode. Enfin, c'est ce que veut montrer la propagande du Kremlin. Bienvenue dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous sommes avec le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Et donc tu viens de passer quelques jours à Marioupol, une ville qui comptait un peu plus de 400 000 habitants avant le 24 février 2022. Un port extrêmement stratégique sur la mer d'Azov, un nœud industriel, le public connaît évidemment Azovstal, détruit à 90% par l'artillerie russe. Avant même que tu m'expliques à quoi ressemble Marioupol maintenant, je voudrais que tu me racontes ton voyage quasiment domestique, intérieur, dans une partie de la Russie.
Eh bien déjà, il faut rappeler quelque chose, c'est que depuis 2022, le début de l'offensive, les avions ne volent plus vers le sud de la Russie. Je rappelle quand même que pour se rendre à Rostov, sur le Don, qui est la grosse ville russe la plus proche de Marioupol, et toutes ces villes qui sont à proximité de la frontière ukrainienne, vous devez y aller en train de nuit. Donc déjà, pour atteindre Rostov, c'était 24 heures de train de nuit. Et je te le précise rapidement, et je pense que ça pourra faire l'objet d'un autre podcast plus tard, parce que dans ces trains de nuit, ça veut dire qu'on se retrouve coincé pendant 24 heures dans la même cabine que d'autres Russes. Et moi, j'ai une crainte, c'est de me retrouver dans la cabine d'un militaire à chaque fois. Ce qui n'a pas été le cas au retour, mais ce qui a été le cas à l'aller. Et rapidement, je me retrouve, pour te raconter très rapidement, je me retrouve à côté donc de ce militaire et d'une dame. On était tous sur nos téléphones, et puis à un moment, la dame a dit « Bon, allez, on se présente maintenant ». Moi, dans ma tête, je fais non.
Ah, merci, attendez.
Ouais, c'est ça. Et elle dit, en gros, elle dit, on commence par vous, en me montrant du doigt. Et du coup, je lui dis, bonjour, je suis français. Et là,
ça
gros blanc.
Très bien.
Et voilà, et on ne sait plus rien échanger pendant 24 heures derrière. Donc, c'est pour t'expliquer que c'est pénible dès le départ, en fait, de se rendre dans le Donbass, parce que voilà, les trains de nuit de nos jours, c'est un petit peu compliqué quand on est français, quand on est étranger. Ensuite, il y a la frontière à passer. Alors, c'est très étrange parce que c'est un mélange de frontières qui n'existent plus vraiment, parce que pour les Russes, les régions du Donbass ont été annexées et font partie du territoire russe. Et en même temps, ça ressemble un peu certainement à la Tchétchénie dans les années qui ont suivi les guerres de Tchétchénie, c'est-à-dire qu'il y a encore des checkpoints. Et il y a encore, en fait, une frontière avec un rayon X. Tu vois, ils fouillent les bagages, ils s'assurent qu'aucune arme n'entre ou ne sorte du Donbass, notamment. C'est leur obsession. Il y a des tables, maintenant, destinées aux militaires. Il y a beaucoup de militaires qui sortent et qui entrent pour leur permission notamment. Et donc eux, on vérifie particulièrement s'ils n'ont pas des grenades ou des armes sur eux. C'est la police militaire qui est à ces tables. Et en fait, ces soldats montrent leur permis, en tout cas leur document qui prouve qu'ils sont militaires et qu'ils ont le droit de quitter la zone. Moi, journaliste étranger, évidemment, petit traitement, et j'allais dire même pas traitement particulier, parce qu'en fait ça vaut pour beaucoup d'hommes du Donbass. Ces frontières, c'est ce qu'on appelait les camps de filtration en 2022, c'est-à-dire que les services de sécurité vérifient les gens physiquement, psychologiquement aussi, ils posent beaucoup de questions pour savoir qui entre, qui sort du pays. Moi, journaliste étranger, j'ai eu un interrogatoire assez pénible d'une heure et demie.
Tu t'y attendais ?
Je m'y attendais, je m'étais préparé, j'avais caché le téléphone que j'utilise avec les applications dans lesquelles il y a toutes les vidéos, j'avais un téléphone vide, j'avais un peu préparé mes questions, et à vrai dire, quand ils vous attrapent comme ça après 24 heures sans beaucoup de sommeil, j'ai arrêté de réfléchir, je me suis inventé une vie. Donc j'ai donné des fausses adresses, des faux numéros, des faux machins. Ils m'ont repris mes empreintes, ils ont pris des photos de moi, ils l'ont déjà fait 1000 fois. Donc je pense que tout ça ne sert strictement à rien, c'est vraiment juste pour embêter. Donc quitte à jouer un peu au débile, moi aussi je me suis inventé une vie, tout le monde était content à la fin. Et ils m'ont laissé entrer dans le Donbass. Façon de préciser qu'ensuite, une fois que je suis entré dans le Donbass et que je suis allé jusqu'à Marioupol, j'étais totalement libre de travailler, parce que dans leur esprit, on est quand même en Russie, et ils partent du principe qu'on va rencontrer que des gens qui sont totalement pro-russes, ce qui n'est pas totalement vrai à Marioupol.
Alors, si tu avais fait ou décidé de faire ce voyage il y a peut-être 6 mois, ça aurait été sans doute dans le cadre d'un voyage de presse avec l'armée. Là, c'est toi qui décidais d'y aller tout seul, parce que tu sais que maintenant, et tu viens de l'expliquer, tu rentres dans un bout de Russie. Tu découvres Marioupol avec sans doute des images mentales de ce qu'était la ville présentée par les Russes, une espèce de village Potemkin avec toujours les mêmes plans sur 3 quartiers reconstruits dans une ville qui avait été détruite à 90%. quelle est ta première réaction lorsque tu entres dans le centre-ville de Marioupol, qui était une ville que moi j'ai connue en 2014, qui était déjà avec une géographie très russe, pour ne pas dire soviétique.
Effectivement, avec quand même un petit centre-ville avec des vieux immeubles qui avaient leur charme, on va dire, même si c'est frité beaucoup au temps de l'Ukraine. Et au temps de la Russie, ils ont été détruits, donc c'est pas compliqué. Je pense à cette avenue principale, notamment qui menait vers le théâtre d'art dramatique, le célèbre, tristement célèbre, qui a été bombardé par la Russie, qui, en gros, on soupçonne un gros crime de guerre russe sur ce bombardement, parce que beaucoup de civils s'abritaient là-dedans. Et donc, pour te figurer, en fait, à quoi ressemble le centre-ville de Mariupol, enfin, j'ai pas besoin de te le dire, d'ailleurs, parce que tu l'as vu, mais tu dois t'en rappeler, il y a ce théâtre, et en fait, c'est une espèce d'avenue qui monte en haut de la colline, et au fond, on voit toute l'usine Azovstal. Donc, tu as cette vue maintenant sur l'usine qui était déjà un peu un amas de métal à l'origine. Mais là, tu vois de loin que tout est de travers, que tout a été bombardé, que tout est détruit, qu'il n'y a plus d'activité.
Ça doit être très impressionnant quand tu connais l'histoire.
C'est effectivement impressionnant, gigantesque. Il n'y a plus les fumées qui sortent des cheminées. Tu vois que ça ne fonctionne plus. Et ce centre-ville, il a été complètement détruit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a zéro habitant dans ce centre-ville. Il y a un an, quand je suis venu à Mariupol, il n'y avait que les façades de ces immeubles. Aujourd'hui, je pense qu'on a reconstruit les quatre murs d'à peu près tous les immeubles, mais de cette rue principale. C'est-à-dire que je ne l'ai pas encore raconté, mais mon premier jour à Mariupol, je me suis dit, je vais traverser la ville à pied. Je vais de l'aéroport jusqu'à Azovstal, c'est 10 km, et je suis revenu à pied. J'ai fait 20 km en une journée. Donc j'ai vu une très grande partie de la ville et les rues parallèles en fait à cette avenue principale sont complètement ravagées. T'as encore les poteaux pliés, t'as encore des traces d'obus dans le béton, enfin vraiment rien n'a été touché. Et je précise aussi, c'est ce qui m'a le plus choqué en retournant en ville, c'est qu'il y a des restaurants maintenant avec des terrasses sur l'avenue principale. Des magasins de vêtements, des magasins d'informatique. Les gens commencent à se racheter des ordinateurs et des télévisions plus de 2 ans après le siège. Donc on sent que la vie commence à reprendre un tout petit peu, mais les gens, ils n'ont pas vraiment d'argent, les gens de Mariupol. Et donc ceux qui sont en terrasse, avec leur chicha, à côté d'immeubles complètement carbonisés, ce qui, soit dit en passant, crée des images mais hallucinantes, ces gens, en fait, ce sont des Russes. Parce que les autorités russes poussent les touristes qui veulent aller en Crimée à ne plus passer par le pont de Crimée, parce que trop de sécurité, trop de contrôle, il y a des embouteillages, c'est très long, c'est un peu risqué. Donc on leur conseille de passer par les territoires occupés. Et donc Mariupol, c'est en train de devenir une ville étape, en quelque sorte, une ville dans laquelle on va s'arrêter pour manger quelque chose au restaurant, une petite pizza au restaurant, avant de reprendre la route vers la Crimée. Donc pour l'instant, le centre-ville fonctionne comme ça.
S'arrêter, voire plus, parce que ce qui a motivé en partie ton voyage de Moscou vers Mariupol, c'est le fait de voir qu'il y avait un certain nombre d'annonces d'immeubles ou d'appartements à vendre à des prix assez élevés, des prix presque moscovites, et que ça commençait à partir. Raconte-nous ce qu'est devenu Mariupol dans l'esprit d'une certaine classe sociale à Moscou.
Oui, parce que nous, on a ces beaux immeubles en tête qui sont destinés aux habitants de Mariupol. Alors, on leur confie, on leur donne pas, on leur confie gratuitement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires. Et c'est toujours bien de le préciser, des appartements qu'on leur donne, qui ont été construits à la va-vite, qui sont de mauvaise qualité. Hein. J'ai fait des directs depuis un de ces immeubles, puisque j'ai pu louer un appartement dans un de ces immeubles. J'entendais tout ce que les voisins disaient. Le balcon, qui, je pense, a été construit il y a à peine 6 mois, était en train de s'effriter déjà. J'ai vu certaines façades de l'immeuble qui s'effritaient aussi. De manière générale, c'est ce qu'on appelle en Russie ivrorimont, une espèce de bricolage européen, réparation européenne. En fait, c'est quelque chose qui, des matériaux de basse qualité, mais qui donne la sensation de vivre en Europe. Quelque chose qu'on retrouve beaucoup en Russie et en Ukraine. Bref, voilà, ce sont ces bâtiments qu'on a confiés aux gens qui, donc, eux, avaient perdu leur logement. Mais on est en train de se rendre compte, et j'ai pu le voir de mes propres yeux, que certains immeubles qui ont été détruits lors de bombardements et ont été reconstruits et privatisés derrière. Et je me suis rendu sur un de ces immeubles. C'est très drôle parce qu'ils ont voulu en faire un immeuble de luxe. Donc le luxe pour les Russes, c'est fausse moulure rajoutée sur l'immeuble. C'est coffrage pour la climatisation. Et en gros, la plaque de la rue couleur or. Je pense que ça ne va pas beaucoup plus loin, le luxe qui est offert à ces gens-là. Un immeuble rue Nakhimova 81, à Mariupol, avec vue sur un grand parc à 2 pas de la mer. Et en fait, ce qu'ils ont fait, Déjà, j'ai découvert à cette occasion que des grands-mères avaient manifesté, des grands-mères qui vivaient dans l'immeuble qui était là précédemment et qui voulaient récupérer leur immeuble et qui ont manifesté parce qu'elles voulaient rester vivre là. Donc ces grands-mères, on les a envoyées dans d'autres immeubles. Donc ce sont des petites manifestations qui ont eu lieu dont personne n'avait entendu parler. Et en fait, ils ont été très malins, les gens qui ont privatisé cet immeuble-là, c'est qu'ils ont changé l'adresse parce que l'immeuble était dans un angle. Et donc, ils ont mis l'adresse de l'autre rue de l'angle pour que, justement, ces grands-mères puissent pas aller au tribunal un jour et dire « Moi, je vivais là avant, je voudrais récupérer mon immeuble. » Donc, ces immeubles, ils sont vides. Parce que je ne pense pas que les Russes qui investissent dans l'immobilier ont envie de s'installer à Mariupol aujourd'hui, puisque c'est détruit.
C'est la spéculation.
Voilà, il n'y a pas de vie à Mariupol aujourd'hui, hein, ça reste une ville martyre. Mais effectivement, le projet du Kremlin, c'est de faire de Mariupol une cité balnéaire. Et donc, je pense que certains Russes se disent que d'ici 5-10 ans, on viendra peut-être en vacances à Mariupol, comme on va à Sotchi ou en Crimée.
Alors moi, il se trouve que je suis allé, j'ai vu, avant qu'il y ait des destructions, j'avais couvert l'invasion de la Crimée par la Russie. Au-delà de l'aspect historique très très fort à Yalta, à Sébastopol, il y a de jolis endroits en Crimée. J'ai le souvenir de la plage donnant sur la mer d'Azov, extrêmement polluée, notamment à cause d'Azovstal. Il va falloir plus que ça quand même pour motiver les Russes. Mais bon, ils n'ont peut-être pas le même esprit que nous.
Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait aussi le chemin de fer qui reliait le port de Mariupol à l'usine Azovstal. Le chemin de fer passait carrément sur la plage. Et donc quand tu allais l'été à Mariupol, tu avais les enfants. Il y avait vraiment un train tous les 4 minutes, je pense. C'était une activité industrielle incroyable. Et donc tu avais les enfants qui traversaient la voie de chemin de fer, pas protégés du tout, pour se rendre à la plage. Donc c'était très particulier. Et il y a un gros terril au pied de l'usine Azovstal. Et le charbon, en gros, il tombe dans la mer. Et donc, tu as des endroits où la plage, elle est carrément noire. Et même si l'usine ne fonctionne plus, la mer d'Azov à cet endroit-là est super polluée. Et il n'y a pas tant de gens qui s'y baignent. Et moi, il y a des gens qui me l'ont dit à Mariupol, quand même, le projet des Russes, on trouve ça un peu bizarre parce que pour venir se baigner à Mariupol, il faut quand même avoir envie, quoi. Aller plutôt en Crimée, en fait, parce que là, ce n'est pas le bon endroit pour ça.
Alors justement, les gens, c'est, je pense, le plus important. J'avais eu une expérience très contrastée, moi. En 2014, j'y étais en avril, juste avant ce qu'on appelle la bataille de Mariupol, vraiment entre les forces armées ukrainiennes et des séparatistes qu'on voyait redescendre de Louhansk et de Donetsk. Juste avant, j'avais trouvé l'ambiance absolument détestable. C'est une espèce de marigot entre des convois de Porsche Cayenne noirs remplis de mafieux, des industriels qui essayaient de tirer profit de tout ça, des gens russophones, mais ça je crois qu'il n'y a pas de problème, mais certains totalement russophiles. Je suis tombé sur l'attaque d'un commissariat de police. Il y avait les morts d'un côté et de l'autre, et j'ai vu vraiment de mes yeux des séparatistes commencer à mettre ici une casquette de policier, ici un badge de nationaliste ukrainien, et nous monter totalement une opération sur qui avait attaqué qui. C'était extrêmement contrasté, on avait fui quasiment un quartier entier poursuivi par des personnes âgées, oui, qui essayaient de nous étrangler mon écharpe parce qu'on était européens. Et je m'étais dit, mais qui sont ces gens-là? Ils sont totalement pro-russes. Et puis il y a eu ce qui s'est passé en 2022, où les gens, oui, il y avait ces échanges parce que c'est une ville quasiment frontière, et ils ont été agressés par la Russie. C'est quoi un habitant de Mariupol aujourd'hui? Est-ce que c'est un Russe? Est-ce que c'est un Ukrainien qui subit? Est-ce que c'est un Ukrainien pro-russe? Je pense qu'il y a un peu de tout ça.
Exactement, j'allais dire, ça ne va pas t'étonner, il y a certainement de tout ça. Ce qui s'est passé quand même en 2014, c'est que la Russie, elle a testé par ses manifestations, ses attaques de commissariat, ces choses-là, elle a testé la population un peu partout. Et c'est même allé à l'époque jusqu'à Odessa. Et le fait est qu'à Mariupol, ça n'avait quand même pas pris. Alors la Russie avait quand même occupé la ville pendant à peu près 2 mois en 2014.
J'avais assisté à un référendum extraordinaire où une grosse dame blonde était dans la rue avec une urne et m'expliquait que la démocratie était en train de se passer tout en bourrant l'urne.
C'est très beau.
Voilà, c'est la transparence. À la Russie, incroyable.
Voilà, et du coup, il y avait tout ça en 2014, et il y avait effectivement des deux camps. Il y avait quelque chose qui excitait beaucoup les pro-russes, et sans qu'on sache vraiment à quel point c'était vrai. Enfin, il y avait une part de vérité, c'était le rôle des services de renseignement ukrainiens à Mariupol, qui effectivement savaient qu'il y avait beaucoup de gens qui soutenaient la Russie à Mariupol, qui même peut-être informaient un peu l'armée russe, et donc ils chassaient les pro-russes, ces gens-là. Et on sait, notamment certainement des gens du célèbre bataillon Azov, n'avaient pas des méthodes très légales, et je croient savoir qu'il y a eu des actes de torture, qu'il y a voilà, des pro-russes qui ont été maltraités. Donc, il y a eu ce genre de choses qui ont entraîné des rumeurs qui allaient encore plus loin. Et donc, il y avait beaucoup de pro-russes qui étaient chauffés à blanc à Mariupol. Donc, en 2022, quand la Russie arrive, je pense qu'il y a un public pour accueillir la Russie. Moi, ce que j'ai remarqué par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, les gens ne savaient pas trop si l'Ukraine allait revenir ou pas. Donc, tout le monde se méfie un peu.
Tu étais à Mariupol dans le cadre d'un voyage de presse, justement.
Alors, voyage de presse, puis ensuite, on avait quand même pu faire, avec autorisation, ce reportage pour Ligne Rouge. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait Mariupol, Mariupol, Donetsk, Lugansk. Et donc là, on avait quand même déjà pu travailler un peu librement. On était limité en temps, mais on avait pu travailler librement. J'avais remarqué que les gens étaient vraiment un peu entre deux eaux, en se disant ah, peut-être que l'Ukraine va revenir, peut-être pas. Mais en gros, les gens ne prenaient pas trop position et ce n'était pas compliqué de trouver des gens pro-ukrainiens. Mais ce n'était pas compliqué non plus de trouver des gens pro-russes. Et là, cette fois-ci, il y a quelque chose qui m'a marqué. Mariupol, c'est une ville qui est faite d'immeubles, mais aussi beaucoup de ce qui ressemble à des villages avec des kilomètres et des kilomètres de maisons, avec des jardins. Et il y a des petits drapeaux russes, et voire soviétiques, qui sont apparus dans certains jardins depuis l'année dernière. Et donc, je comprends que dans l'esprit de certains, ça commence à être une affaire réglée, quoi. C'est la Russie, on est en Russie, on ne viendra plus en Ukraine. On peut enfin exprimer notre goût pour la Russie.
Russitude.
Notre russitude, voilà, exactement. C'est maintenant que les autres se cachent, en quelque sorte, que ceux qui soutiennent l'Ukraine se cachent. Moi, j'ai eu des discussions avec des gens. J'ai compris au bout de quelques minutes qu'ils soutenaient plutôt l'Ukraine. Mais c'est un peu dur à obtenir. Vous avez des chauffeurs de taxi, ils vous parlent en vous jetant des regards dans le miroir central et vous échangez
côté,
des regards.
On se comprend.
Ouais, voilà. Et tu comprends que lui-même essaie de comprendre de quel côté tu es toi. Quand tout le monde s'est mis d'accord avec les regards, il en donne un peu plus. Et puis tu comprends au bout de la discussion qu'il tient des propos plutôt pro-Ukraine. Mais ça prend du temps et c'est compliqué parce que c'est dangereux d'être pro-Ukraine à Mariupol aujourd'hui.
À Mariupol, on parle russe, c'était déjà le cas. Les gens ont le passeport russe, la monnaie est russe, le téléphone est russe. Que reste-t-il d'ukrainien, toi qui connais justement ces petites subtilités ?
Je veux pas passer pour un fan ultime et total de l'Ukraine, même s'il y a aucune honte à ça, mais moi j'ai toujours beaucoup aimé ce pays. Et il y a quelque chose qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une mentalité différente quand j'arrive dans le Donbass. Mais ça vaut même pas que Mariupol, même à Donetsk, je me sens en Ukraine. Il y a quelque chose d'ukrainien chez beaucoup de gens. En fait, si on enlève les grands-mères soviétiques qui rêvent de vivre aux côtés de Vladimir Poutine, le reste de la population, il y a un côté, je ne sais pas, un peu plus souriant, avec des visages qui sont plus ukrainiens que russes, une façon de voir les choses. Alors, j'allais dire une gentillesse, non pas que les Russes ne soient pas sympathiques, mais ce sont d'autres relations qu'on a avec les Russes. On en arrive toujours à une relation où les Russes sont sympas, mais il y a un côté assez spontané avec les Ukrainiens. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui me fait me sentir en Ukraine là-bas, et ne serait-ce que parce que quand tu passes la frontière, tu n'as plus la même ambiance qu'en Russie. T'as l'impression, même si c'est pas le cas, que ce sont plus les mêmes lois, que ce sont plus les mêmes règles, tu te sens plus libre, étonnamment. Je sais plus avec qui j'ai eu la discussion récemment, où ça nous soulage de passer la frontière et d'arriver en zone occupée. C'est terrible à dire comme ça, parce qu'on a l'impression qu'on est plus libre que sur le territoire russe, où t'as la sensation que les autorités sont un peu débordées. À Mariupol, par exemple, il y avait une police militaire qui traîne un peu dans le coin, mais en fait, il n'y a pas vraiment qui que ce soit qui fait la police. La vraie police, là-bas, c'est le FSB qui cherche les gens qui vont politiquement soutenir l'Ukraine. Mais c'est à peu près tout. Et donc, en gros, les gens continuent leur vie. Ils ont un espèce de monde russe autour d'eux, qui parfois est un peu abstrait. Il y a quelqu'un qui me disait, nous, on paye l'essence plus cher que les Russes. Enfin, je vois pas pourquoi on nous explique qu'on vit en Russie, parce qu'on n'a pas les mêmes prix qu'en Russie. Toutes les sociétés du bâtiment à Mariupol aujourd'hui appartiennent à des entrepreneurs de Moscou-Saint-Pétersbourg. Il n'y a plus personne qui a son entreprise à Mariupol. Ce sont que des gens de l'extérieur. Donc, il y a une espèce de fossé qui se crée entre les gens du coin et la Russie, qui fait que malgré tous les efforts de Moscou, pour l'instant, il y a encore une différence entre Mariupol, le Donbass et la Russie.
D'un mot, ce que je comprends, malgré toutes les abstractions, voire les absurdités de cette situation, ce que je comprends, c'est que Mariupol n'est pas prêt de revenir dans le territoire ukrainien. Y a un côté gel des frontières qui se matérialise sur Marioupol.
Moi, quand je suis ressorti de cette zone-là, je me suis dit, si l'Ukraine revient un jour, en tout cas, ils ne reverront jamais Marioupol comme ils l'ont connu avant. Vous savez, moi, je reçois des emails régulièrement de, je ne sais plus si c'est une agence de com ou un service de l'État ukrainien qui, en fait, communique sur des projets de reconstruction de Marioupol qu'ils ont, sur des projets qu'ils ont pour la ville. Ça m'attriste beaucoup à chaque fois parce qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de projets. Mais si un jour l'Ukraine remet les pieds à Marioupol, dans les faits, la vie, elle aura été reconstruite à la russe. Les gens auront été russifiés. Étudier les crimes de guerre qui ont eu lieu là-bas, ce sera très compliqué parce que c'est la première chose qu'on efface aujourd'hui, hein, quand même. Et le fait est que... moi, j'ai rencontré un monsieur là-bas qui a un magasin d'électroménager et qui m'expliquait que lui était originaire plutôt de Donetsk, qu'il avait vécu toutes ses années à Donetsk, ça fait pas longtemps qu'il s'est installé à Marioupol, et il n'est pas dupe, c'est-à-dire qu'il y a des autoroutes, il y a des... tout est moderne, tout est en rénovation à Marioupol, et tout ça, ils ne l'ont pas dans tout le reste du Donbass. Et c'est là qu'on comprend que Marioupol, c'est une vitrine pour le Kremlin et que ça ne vaut pas pour tout le reste.
Voyage à Marioupol, merci beaucoup Paul Gogo, et à la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast original sur bfmtv.com, BFM Radio et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.